Issam qu'on amorce une décrue. Cette fois-ci, ça se jouait à pas grand-chose. On se rassure, on se dit que peut-être le bout du tunnel est arrivé.
1500 habitants évacués dans les Pyrénées-Orientales, département en vigilance rouge à cause des risques de crue. Mais ce matin, la situation s'améliore nettement. Nous verrons s'il en est de même dans l'Aude.
Emmanuel Macron s'énerve face à un policier israélien. Colère sincère ou cinéma? Les Palestiniens sont partagés sur la portée de ce coup de gueule.
Vraiment, il a bien fait, il a tout mon respect.
Mais c'est du théâtre tout ça, il joue pour le show.
En Chine, la ville de Wuhan, 11 millions d'habitants en quarantaine, aucun train, aucun avion à cause du nouveau virus qui a déjà fait 17 morts.
Pierre Joxe se fait condamner l'écrivaine Ariane Forniak, qu'il accusait d'agression sexuelle. Elle va faire appel.
Et puis c'est du jamais vu, un match de basket de la NBA se joue demain à Paris. Les Milwaukee Bucks contre les Charlotte Hornets, le club de Nicolas Batum qui joue les guides.
Je suis un peu office de touriste. Ah, c'est basique, c'est là, ça a été Tour Eiffel, d'aller au Louvre. On n'a que deux jours, donc c'est pas évident de faire Tour de Paris. Mais d'avoir les principaux spots, c'est important.
Europe 1, 6h01. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Alerte maximum dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. La tempête Gloria a fait monter les fleuves Agly et Aude avec des crues très importantes qui ont dépassé les cotes d'alerte.
Benjamin Péter, vous êtes dans la salle des fêtes de la commune de Toreil. C'est dans les Pyrénées-Orientales où plusieurs dizaines d'habitants ont passé la nuit par mesure de précaution.
Oui, des habitants qui tous sont situés dans une zone de 300 mètres autour de l'Agly. Ce cours d'eau avait dépassé sa cote d'alerte hier soir, plus de 7 mètres pour cette rivière qui habituellement ne laisse passer qu'un mince filet d'eau. Une alerte qui a obligé la préfecture à déclencher ses évacuations. 1500 personnes en tout, vous le disiez. 6 villages concernés, Toreil ici, mais aussi Pia, Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Barcarès et Cléra. Mais ce matin, les derniers relevés sont très rassurants. Marc Medina, le maire, se dit qu'ils ont peut-être échapper au pire.
Il semble qu'on amorce une décrue. Jusqu'à 3h du matin, le niveau était resté le même depuis 23h. Et la dernière mesure, à 5h du matin, c'est apparaître une diminution d'une trentaine de centimètres de hauteur d'eau.
Vous soufflez là?
Ah oui, bien sûr. Oui. Cette fois-ci, ça s'est joué à pas grand-chose. On se rassure, on se dit que peut-être le bout du tunnel est arrivé.
Voilà, alors la nuit a été difficile, vous l'imaginez ici, beaucoup dorment encore, tentent de récupérer sur les lits de camp. Mais ce qui va être déterminant, c'est l'évolution des pluies dans les prochaines heures. On redoute des orages en montagne et le long de la côte dans la matinée. De leur intensité dépendra réellement la levée ou non de l'alerte.
Et on suivra ça bien sûr avec Laurent Cabrol. Benjamin Péter, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Toreil dans les Pyrénées-Orientales.
Et nous vous emmenons à présent dans l'autre département en vigilance rouge, le département de l'Aude. Bonjour colonel Henri Beneditini.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes directeur du SDIS de l'Aude. Merci d'être en direct sur Europe 1 dans ce journal de 6h ce matin. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà un aperçu de la situation ce matin?
Eh bien, écoutez, la situation est assez conforme à ce qui a été décrit donc pour les Pyrénées-Orientales, c'est-à-dire qu'on a eu un gros épisode pluvieux donc dans l'après-midi et une partie de la nuit donc hier, avec donc des montées très très importantes du fleuve Aude, en particulier sur le tronçon de la partie sud du fleuve entre globalement Quillan et Carcassonne, aboutissant à de nombreuses inondations de quartiers donc situés en bordure du fleuve Aude, et donc entraînant d'abord des évacuations en titre préventif.
À peu près combien vous avez une idée de combien de personnes ont été évacuées?
Alors, sur l'intégralité du tracé, environ 400 évacuations entre Limoux, Couizat et Carcassonne et Trèbes. Donc, environ 400 évacuations. Les services d'incendie et secours ont réalisé environ 90 mises en sécurité de façon donc à éviter au maximum les risques pour les personnes. On a eu malgré tout encore 4 véhicules qui, forçant des interdictions de circuler, se sont retrouvés en grande difficulté. Donc je crois qu'on peut rappeler à l'ensemble des auditeurs qu'ils respectent de façon drastique les interdictions de circuler, parce qu'il y a des risques importants avec les véhicules lors de ces inondations.
Évidemment, il faut respecter les consignes à la lettre. Merci colonel Henri Beneditini, directeur du SDIS de l'Aude, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Encore une fois, dans ces régions, vous vivez en ce moment ces intempéries, vous voulez nous décrire la situation, peut-être 3921 et le hashtag Europe 1.
Il est 6h05.
You know the rules. Avec l'accent, s'il vous plaît. You know the rules. C'est ainsi qu'on l'a entendu, le coup de colère d'Emmanuel Macron en anglais teinté de ce fort accent français et qui n'est pas passé inaperçu hier à Jérusalem. Le président s'est énervé contre un policier israélien qui voulait entrer dans la basilique Sainte-Anne. Territoire français.
Une colère qui, évidemment, fait écho à celle de Jacques Chirac en 96 au même endroit. L'ancien président était perçu comme défenseur de la cause palestinienne, ce qui n'est pas forcément le cas d'Emmanuel Macron. Alors, comment les Palestiniens ont-ils vécu cette sortie du président français ? Reportage à Jérusalem-Est, Clotilde Bravko.
So everybody respects the rules.
Un chef d'État français qui sermonne des forces de sécurité israéliennes. La vidéo arrache un sourire aux Palestiniens dans la vieille ville de Jérusalem.
Vraiment, il a bien fait, il a tout mon respect.
C'est la deuxième fois. La première fois, c'était avec Jacques Chirac. Je m'en souviens, j'étais là.
Jacques Chirac et son fameux coup de sang contre les Israéliens en 1996. Un modèle qu'a suivi Emmanuel Macron, juge Nizar Naqchi.
Lui là, il a le même style. Et ils défendent la même chose, qu'on respecte le peuple palestinien.
Dans une petite échoppe un peu plus loin, autour d'un brasero aux odeurs d'encens, Jamal Diab, lui, est plus sceptique.
Mais c'est du théâtre tout ça, il joue pour le show.
À ses côtés, un de ses amis retraités, Abou Antar, acquiesce.
C'est politique, c'est pas pour nous.
Plus qu'un coup de sang, expliquent les deux hommes, c'est un acte qu'ils attendent de la France contre l'occupation israélienne. Mais pour l'instant, Emmanuel Macron n'a fait aucune annonce en ce sens. Jérusalem, Clotilde Mrafko, Europe 1.
Et aujourd'hui, une quarantaine de dirigeants venus du monde entier vont se retrouver en Israël pour commémorer le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Plus d'un million de Juifs ont été exterminés dans ce camp nazi.
Et c'est certainement plus important hein, ce matin dans l'actualité que le coup de colère, fin ou non, hein, d'Emmanuel Macron. Ça, c'est à vous de vous faire une opinion. À 6h40, je reçois Benjamin Orenstein. C'est un survivant du camp d'Auschwitz, survivant de la guerre, le seul de sa famille. Il a 93 ans aujourd'hui et il témoigne sur Europe 1. La Chine passe à la vitesse supérieure pour tenter d'enrayer la mystérieuse épidémie qui a déjà fait 17 morts, plus de 500 personnes contaminées. Désormais, la ville de Wuhan est placée en quarantaine.
Un trafic ferroviaire et aérien interrompu. La consigne est claire pour les 11 millions d'habitants. On ne bouge pas pour éviter toute contagion et cela malgré les vacances du Nouvel An chinois. Jean-Jacques Herry.
Visiblement, le message a été entendu. La plupart des habitants de Wuhan restent cloîtrés chez eux. Quant à ceux qui descendent dans la rue, ils portent tous un masque respiratoire. Dans une ville où 80 entreprises tricolores sont installées, plus de 1000 expatriés français se retrouvent donc en première ligne. Philippe Klein se décrit comme leur médecin de famille. Il raconte une ville bientôt sous cloche, avec des aéroports sous surveillance.
Il y a de toute façon toujours en Chine des portiques infrarouges pour détecter les patients qui ont de la fièvre. Avant d'embarquer dans l'avion, on distribue aux passagers des masques et puis des lingettes antiseptiques. Ensuite, en fonction des destinations, les mesures sont prises par les aéroports de destination. Je sais que pour Hong Kong, il faut remplir un questionnaire médical et puis il y a une prise de température individuelle à l'arrivée à Hong Kong.
Sur la route à la sortie de la ville, des barrages ont également été dressés. On y contrôle la température corporelle des passagers. Parallèlement, les manifestations de masse, les célébrations prévues notamment pour le Nouvel An par exemple, ont d'ores et déjà toutes été annulées, car la grande crainte maintenant c'est de voir le virus muter et devenir encore plus contagieux.
Et à Genève, l'Organisation mondiale de la santé salue les mesures très fortes prises par la Chine. La réunion qui a commencé hier va se poursuivre aujourd'hui. Il s'agit de savoir si ce nouveau virus est une urgence internationale de santé publique. Deux syndicalistes CGT de Dordogne ont passé plusieurs heures en garde à vue hier. Ils sont soupçonnés de coupures sauvages d'électricité le mois dernier dans une entreprise classée Seveso. Philippe Martinez accuse le gouvernement de jeter de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, un appel à la grève est lancé dans toutes les centrales nucléaires de France.
Aux États-Unis, le procès du producteur de cinéma Harvey Weinstein est entré dans le vif du sujet hier à New York.
La procureure l'a décrit avec des détails parfois très crus comme un violeur et un prédateur sexuel expérimenté qui ciblait de jeunes actrices vulnérables.
En France, c'est dans le sillage du mouvement MeToo hein, que l'écrivaine Ariane Fornia, c'est la fille de l'ex-ministre Éric Besson, accusait Pierre Jox d'agression sexuelle. C'était lors d'une soirée à l'Opéra en 2010.
Et Alexandra Besson, c'est son vrai nom, n'a pas eu gain de cause. Elle a été condamnée pour diffamation. Le tribunal estime qu'elle a jeté le discrédit et l'opprobre sans étayer ses accusations. Satisfaction de maître Jean-Yves Dupeux, c'est l'avocat de Pierre Jox.
Pierre Jox n'est très soulagé par cette décision qu'il rétablit dans son honneur. Cette décision écarte les arguments donnés par Alexandra Besson. Elle se trompe sur l'opéra lui-même, elle se trompe sur la place qu'elle occupait, elle se trompe sur l'existence d'un entracte, il n'y avait pas d'entracte, elle se trompe sur le fait qu'elle ait changé de place, elle se trompe sur le fait que son père l'ait rejoint à l'entracte. Bref, la plupart des éléments de son récit sont des éléments qui sont faux, ce qui est souligné par le tribunal.
En face, déception de l'avocat d'Alexandra Besson, maître Jean-Marc Fédida.
Évidemment, c'est une décision que nous trouvons assez inattendue et que nous trouvons très décente. Parce que c'est une décision qui fait le procès de la parole de la personne qui se plaint, de la plaignante. Le tribunal considère que certains détails peuvent être remis en question, mais dans l'ensemble, le récit est cohérent. Je pense que la justice doit s'attacher aussi à examiner le récit de la personne qui est mise en cause avec autant de scrupules que celle de la parole qui met en cause.
Maître Fédida avec Guillaume Bia, il va faire appel de ce jugement. On vous avait parlé dans ce journal de la pétition demandant au pouvoir public d'interdire le démarchage téléphonique. On sait désormais que l'an dernier, 2 300 000 euros d'amende ont été infligés à des entreprises pratiquant justement le démarchage téléphonique illégal. Europe 1, 6h11.
Le foot, à présent, avec le Paris Saint-Germain qui rejoint Lyon en finale de Coupe de la Ligue.
Les Parisiens se sont imposés à Reims hier soir 3-0. Ils retrouveront donc l'OL le 4 avril. Ce sera au Stade de France pour le titre.
Et puis, si vous croisez à Paris des hommes très grands qui parlent anglais, ce sont peut-être des joueurs de basket américains. C'est le générique de la NBA que vous entendez.
Et oui, demain, ce sera une première, un match officiel de NBA. Le championnat des États-Unis, il va se jouer en France à l'Accor Arena de Bercy, à guichet fermé. Les Milwaukee Bucks face aux Charlotte Hornets, le club de Nicolas Batum. Et d'ailleurs, hier, le Français a joué les guides touristiques pour ses coéquipiers. Axel May les a suivis.
Les larges sourires dissimulent la fatigue du long voyage depuis les États-Unis. Les Charlotte Hornets se posent pour la photo officielle devant la Tour Eiffel et ils ont eu un guide de choix, Nicolas Batum, le Frenchie de l'équipe.
Je suis un peu office de tourisme. Oh, c'est basique, c'est là, ça a été Tour Eiffel, aller au Louvre. Il y en a qui vont au Sacré-Cœur, je crois. Ça a quelques restaurants, marcher sur les Champs-Élysées. Enfin, on n'a que deux jours, donc c'est pas évident de faire tour de Paris. Mais d'avoir les principaux spots, c'est important.
Lors de la séance d'entraînement, devant les nombreux micros et caméras, il y a même un média thaïlandais, l'entraîneur des Charlotte Hornets, James Borrego, s'amuse.
Only French.
Seulement en français, hein, pas en anglais. Vous savez, pour la plupart des joueurs, c'est la première fois qu'ils traversent l'Atlantique. Être ici, dans un pays magnifique, dans cette ville fantastique, c'est très spécial pour nous tous.
La plupart des joueurs ne connaissent donc pas la France et dans un clip vidéo diffusé par les Charlotte Hornets, ils sont interrogés sur les spécialités culinaires. L'un répond le fromage et le vin, un autre les spaghettis. Mais non, c'est italien, rétorque Nicolas Batum.
Et de leur côté, les joueurs de Milwaukee sont allés visiter le Parc des Princes, le royaume du PSG.
Ça, c'est une vraie belle affiche d'avoir un match de NBA à Paris. Vous faites peut-être partie des vénards qui ont acheté des places. Il fallait aller très vite, hein, au moment où ça se vendait. Imaginez la visite guidée des basketteurs de NBA dans Paris. Merci Hélène Zelani. Vous êtes sur Europe 1. C'était le journal de 6h, un nouveau journal à 6h30 tout à l'heure avec Jérôme Lacroix.